Un conseil, madame, un conseil, monsieur.
Le mardi.
Manger, manger sain, manger frais, manger...
de la culture.
Car il faut manger, manger, manger les mardis. Avant que ce soit les radis qui nous mangent. Il faut manger, manger, manger les mardis. Et des tas de laitues et des tonnes de pissenlits.
Ne vous découragez pas, ne vous impatientez pas. Bientôt, vous serez amené à la salle d'accouchement où votre médecin vous attend.
Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou. Zoubi zoubi zou, zoubi zou, zoubi zou. Le bruit des bisous.
Mardi.
Blablabla. Mardi, blablabla. Et oui, c'est avec ce nouveau générique qu'on inaugure cette nouvelle saison. Ce n'est plus dérapage contrôlé, mais c'est toujours à peu près les mêmes voix, quasiment le même horaire. On a une demi-heure dans les jambes. 18h30, 20h, tous les mardis, le rendez-vous culturel. Et c'est pas une émission qu'on vous propose, mon cher François Barrès, c'est quatre différentes émissions.
Quatre différentes émissions, bonjour Vincent, qui sont déclinées tout au long du mois. Une émission en studio, comme aujourd'hui, qui nous servira à accueillir notre partenaire de Leitmotiv. Bonjour Ludo.
Salut à vous, je suis un partenaire. Excellent. Salut à tous.
Salut. Une émission embarquée dans les milieux de la nuit, Montpellier-Rennes et autres. C'est-à-dire on pourra aller à Sète et dans d'autres lieux de perversion. Et c'est quoi le principe ? C'est simplement un invité, c'est un fil rouge pour la soirée. On va dans des bars, dans des vernissages et on finit à des heures peu recommandables et dans des états aussi peu recommandables. Une autre émission qui est dans les coulisses du spectacle.
Tout à fait. Mardi backstage, on visitera tous les lieux culturels que vous avez eu envie de visiter. On le fera pour vous, les théâtres, les salles de spectacle, les musées. Et on aura la parole de tous ces gens qui font vivre le spectacle ou la création.
Et enfin, une dernière émission, c'est une émission en restaurant. Ça s'appelle Mardi Miam Miam. Et tous les mois, une fois par mois, on est dans un grand restaurant avec un invité. Et il va être question de gastronomie et aussi de ce qui nourrit l'art et nourrit la création. Et la première, comme on l'entendra un peu plus tard, c'est avec Hervé Di Rosa, artiste bien connu, artiste sétois et directeur, enfin cofondateur du Miam. Et ça sera en fin de mois. Tout le long de cette première émission, nous écouterons comme ça des teasers qui vous permettront de vous familiariser avec ces nouveaux sons, avec ces nouveaux concepts d'émission. Mais pour l'heure, Mardi Blabla s'est lancé. Et Mardi Blabla, c'est quoi exactement ?
Bah, Mardi Blabla, c'est d'abord une émission où on parle, hein, où on parle en direct de l'agenda du mois, de ce qui va se passer dans les trois semaines qui vont nous séparer de la prochaine venue en studio.
Et la particularité, c'est que cette émission en studio est en partenariat avec un magazine bien connu des Montpelliérains, c'est Leitmotiv, dont le rédacteur en chef n'est autre que Ludo Deleuze. Ça fait que Ludo, qui était mon ancien acolyte tout l'an passé, devient un partenaire et chroniqueur régulier.
Il faut que je m'y fasse, hein. Exactement. Je vais essayer de m'y faire, j'ai un peu du mal, mais je pense que ça va aller assez rapidement.
Ludo, Leitmotiv en quelques mots.
Leitmotiv a sorti son numéro 15, donc si on divise par le nombre de mois, ça fait à peu près un an et demi, même s'il y a eu des doubles. Justement, là, c'est un numéro double, septembre-octobre, pour une raison simple qu'après la grosse période estivale, le mois de septembre est quand même assez pauvre en festivité, même quand on va jusqu'à Perpignan et Marseille, ce qui est notre cas au niveau de la diffusion. Donc on a décidé de concentrer ça, de faire un bon gros numéro de 132 pages avec l'actualité de fin septembre, ça, en fait, voilà, c'est à partir de maintenant, hein, c'est-à-dire c'est la rentrée. Pour la radio aussi que ça démarre, et numéro du mois d'octobre. Voilà.
Donc tous les sujets qu'on va traiter aujourd'hui à la radio sont des sujets qui sont développés dans le Leitmotiv, et c'est un moyen ici de développer un peu plus, de sortir de la pagination et d'aller un peu plus en profondeur. Et on commence, comme la tradition le voulait l'an passé, avec une première exclue de la semaine, et c'est Ludo qui s'y colle.
Voilà, c'est une première exclue, et ça tombe bien parce que le disque sort aujourd'hui, et ça sera une date... exactement le 24 octobre, les fameux soirées Cosmic Groove, on en parle souvent mais on va pas s'en passer parce que c'est à chaque fois des bonnes choses. Alors Shal Worker et les Dynamite sont déjà venus deux fois je crois, mais là il y a un nouvel album beaucoup mieux produit que le premier. On écoute un extrait, titre éponyme, Burn It Down. It's been a long time, been a long time coming for us to get down. Stop all that slamming. Burn It Down, premier extrait, nouvel album qui est sorti aujourd'hui de Charles Walker and the Dynamites, qui seront dans le cadre des soirées Cosmic Groove à Salle Victoire 2 le 24 octobre. Première soirée d'une longue série, je crois que Cosmic Groove fait 4-5 concerts, un peu au jam à Victoire 2, il y aura Anthony Joseph, Gwen McRae, Martha Hay qui reviendra, Noémie Shelton, grande chanteuse de gospel qui avait été annulée l'année dernière, enfin des belles choses, on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Dans les suivantes.
Exactement, et merci mon cher Ludo. Maintenant, il est temps de retrouver une séquence sonorité. Sonorité, on les avait accueillis l'an passé. Divergence est souvent partenaire de ce festival qu'on appuie tant que possible. Ils en sont à leur quatrième édition de sonorité aujourd'hui, qui choisit d'aller vers des lieux assez différents. Ça avait commencé au Centre chorégraphique de Montpellier il y a 4 ans. L'an passé, il y avait déjà une première ouverture qui s'était créée. Aujourd'hui, c'est dans plusieurs lieux dans Montpellier, et des liens se nourrissent aussi avec des structures externes, comme à Marseille avec Actoral. Et nous avons Anne-James Chaton, un des directeurs du festival, qui est tout bout du fil. Salut Anne-James.
Bonsoir Vincent, bonsoir François et bonsoir aux auditeurs.
Ouais. Tu nous appelles de Paris, je crois, c'est ça?
Oui.
Exactement. Quand je dis que tu es un des responsables, on le dit comme ça, un des directeurs, c'est vraiment une co-direction du festival. Comment vous assumez justement cette co-direction?
C'est plus ou moins qu'une co-direction. C'est-à-dire que l'idée, c'est finalement pas de diriger quelque chose, plutôt que de mener une réflexion et une recherche à plusieurs, avec des artistes d'horizons différents, que ce soit de la musique, des arts plastiques, du texte, et puis d'élaborer un objet qui s'appelle un festival, mais qui fondamentalement ressemble plus à une revue in situ, quoi, un numéro in situ qui court du texte au son. Voilà, c'est une direction, mais alors pour le coup très collégiale.
Cette quatrième édition du 6 au 9 octobre à Montpellier va être vue dans plusieurs lieux. On reprend le Centre chorégraphique national pour une ouverture du festival, mais en plus, après les Beaux-Arts de Montpellier, le Théâtre universitaire Paul Valéry qui se rajoute, et le Carré Sainte-Anne aussi. Comment aujourd'hui se pense ce festival en plusieurs lieux? Est-ce que ces lieux déterminent des axes de programmation définis?
Oui, parce que c'est vrai qu'on avait démarré et on a longtemps travaillé avec le Centre chorégraphique, et pour le coup, on avait imaginé un objet qui puisse épouser les espaces qui sont ceux du Centre chorégraphique. Il est vrai que l'année dernière, on a commencé un peu à prospecter sur quelque chose de plus géographique en sortant du Centre et en travaillant avec d'autres lieux, ce qu'on renouvelle cette année, parce que ça enrichit à la fois notre façon de travailler, parce qu'à chaque fois, on doit imaginer quelque chose de différent, parce que les espaces sonnent différemment et parce que les publics qui y sont attachés sont différents aussi. Donc voilà, ça nous oblige à nous re-questionner sur ce qu'on propose dans ces différents lieux. Et puis c'est aussi une manière d'aller vers d'autres publics, de croiser d'autres gens et de les inviter à découvrir ces formes-là.
Parce qu'à l'origine...
C'est un enrichissement pour le festival et pour notre manière de... Parce que je pense que dans certains lieux, on imagine certains artistes et pas forcément dans d'autres. Mmh.
Et c'est vrai qu'à l'origine, on parlait d'un festival essentiellement tourné vers la poésie sonore. Est-ce qu'aujourd'hui, il se cloisonne à ce seul endroit?
Oh non, vraiment, il travaille vraiment sur cette ligne du texte au son. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a de la poésie sonore qui est une petite partie du festival, mais après, il y a des poésies et des littératures contemporaines qui ne sont pas sonores. Et puis, il y a beaucoup de musique improvisée ou de musique électro-acoustique ou de musique contemporaine, avec depuis deux, trois ans maintenant, une recherche qui va aussi en direction des arts plastiques et de la façon dont dans les arts plastiques, soit le texte, soit le son peut être approché. Donc voilà, si la poésie sonore a été, avec les musiques improvisées, un des moteurs du festival, aujourd'hui, le champ de prospection, il est très élargi. Et d'ailleurs, les artistes qui le pensent viennent de ces différents horizons.
D'ailleurs, c'est assez représentatif quand on voit le nom des trois temps qui viennent comme ça enrichir le festival. On parle de plastique, hétérophonie et voix. Oui. Au sein de chaque temps, est-ce que tu peux nous détailler, comme ça c'est un jeu un peu périlleux, mais selon toi, voilà, les temps forts qui vont marquer ces trois axes de programmation?
Ce qui concerne la plastique, c'est vrai que là, on va montrer des pièces qui sont plus des pièces écrites, alors que ce soit écrites sur support papier pour les compositeurs comme Reich ou Heitzig pour la positionneur, et puis des pièces qui viennent plus de la performance ou des arts visuels avec une exposition de poésie visuelle. Donc là, on est plus dans une spatialité, une horizontalité du travail. Pour la seconde, l'hétérophonie, là, on reprend un peu ce qui a toujours été le fil directeur du festival, c'est-à-dire ce cheminement qui va du texte au son. Donc là, on pourra vraiment commencer par de la lecture de textes contemporains pour aller jusqu'au concert de notamment de Rich Chatham avec une multitude de guitare ou la harpe de Roderick Davis. Et puis le troisième temps fort qui sera au Carré Sainte-Anne. Là, c'est une soirée qui est dessinée autour de la voix comme organe de phonation et de travail commun, soit à des poètes, soit à des poètes sonores comme Blonk, à des poètes comme Jean-Pierre Verheugen, ou alors après on passe dans un lien entre le l'art sonore et le chant avec Isabelle Dutoit ou Tenko, la japonaise.
J'imagine que le Carré Sainte-Anne, pour cette problématique de la voix, va avoir forcément une influence assez incroyable, parce que c'est quand même une ancienne église.
Voilà, c'est aussi la chance qu'on a que Dominique Thévenot nous ouvre son lieu pour cet objet-là, parce que c'est vrai que c'est vraiment là où on avait envie de le faire et où il pouvait prendre un écho pour le coup.
Alors c'est vrai que si on devait vous rapprocher d'une manifestation qui est dans le Grand Sud, ça serait d'Actoral forcément, manifestation qui a commencé hier et qui court sur plusieurs jours, sur plusieurs villes également, on en parlera en fin d'émission. Et là pour la première année, il y a une association de ces deux festivals.
Oui, parce qu'avec Hubert Collat, ça fait longtemps en fait qu'on voulait tisser des ponts entre nos deux festivals, hormis quelquefois les économies d'échelle qu'on peut faire en faisant voyager des artistes de l'un à l'autre. Cette fois-ci, on a vraiment voulu produire un objet ensemble. Actoral est sur les écritures contemporaines, mais va plus vers la scène et le théâtre. Donc on était en fait deux festivals un peu complémentaires l'un de l'autre. Nous, travaillons plus sur le côté son. Et là, on s'est réunis sur la production d'impromptus, c'est-à-dire de commandes. En fait, ce sont des commandes d'œuvres qui sont passées à quatre auteurs et à quatre musiciens, à partir d'une vidéo d'artiste, d'un artiste qui s'appelle Jonathan. Et voilà, c'est un objet qu'on va montrer dans plusieurs fois à sonorité, enfin en plusieurs temps, notamment avec l'ouverture au centre chorégraphique, le 6. Et puis après, qui sera montré à Actoral à Marseille. Et comme Actoral se déploie sur d'autres villes, à Paris et à Nantes, ces objets vont voyager avec le festival.
Alors une des particularités, c'est que dans le comité de direction du festival, vous êtes quasiment tous, voire tous, artistes, et quelquefois même impliqués dans le festival. Comment ça se gère, ça, au quotidien, de passer de cette posture d'artiste à une posture d'organisateur? Est-ce que c'est assez naturel pour vous?
C'est parce qu'on est artiste qu'on organise un festival. C'est-à-dire c'est parce que dans nos pratiques, qui nous amène à entendre des choses, à participer à d'autres festivals et à voir des objets, mais parce qu'on a le désir de les transmettre et de les faire entendre à d'autres, qu'on veut qu'on donne notre énergie et notre temps pour concevoir et préparer un objet comme ça. C'est vraiment depuis notre parole d'artiste qu'on travaille plutôt que l'inverse. Donc de ce point de vue-là, ça nous semble naturel parce qu'il y a des objets qu'on rencontre qui nous font travailler, qui nous font réfléchir et qu'on a envie de donner à voir et à entendre aux autres.
François ?
Anne James, il y a 21 artistes programmés dans cette quatrième édition de Sonorité. Tous les concerts sont gratuits, les auditeurs peuvent rentrer, il y a des questions de jauge où ils doivent réserver, où l'accès est complètement libre.
Non, il y a des temps qui sont payants. La plupart des temps, d'ailleurs, sont payants. Alors après, on essaie d'avoir des tarifs pas trop élevés pour permettre à peu près à tout le monde de pouvoir y participer. Je crois qu'en règle générale, c'est un tarif qui tourne entre 6 euros en tarif réduit et 12 euros pour les soirées, les trois soirées, les trois grosses soirées dont on a parlé. Après, sur les questions de jauge, oui, on peut réserver principalement en appelant à l'association ou sur le mail.
Merci. Un James, on va écouter justement, et on va te laisser là, mais on va écouter un extrait d'une lecture de Chloé Delhomme, qui fait partie justement des noms peut-être les plus médiatisés de cette programmation, dans les artistes contemporains français notamment. Merci beaucoup. On peut retrouver toutes les informations sur internet, évidemment, www.sonorité.org. Merci, Un James, et on lance notre chère Chloé Delhomme. Salut, Un James.
Je m'appelle Chloé Delhomme. Je suis majoritairement un personnage de fiction. C'est pour ça que je suis sensibilisée au problème. Enfin, je pense, sensibilisée plus que vous. Vous voyez, le problème, c'est que votre tête est pleine d'oiseaux morts. Il y en a vraiment beaucoup. Des tas d'oiseaux morts dans vos têtes, alors que moi, non, pas du tout. Il n'y a absolument aucun oiseau mort dans ma tête. Aucun. Parce que moi, je suis déjà morte. Ça s'est passé il y a longtemps et l'ornithologie n'a rien à voir là-dedans. Je pense que c'est pour ça que j'ai du temps. Du temps de cerveau disponible. Je n'ai que ça, d'ailleurs. Les morts de votre monde n'ont rien sauf du temps de cerveau. C'est la seule chose qu'on ait quand on nie votre adage. Qui refuse le couplet travail-famille-ftizi s'expose à un décès socialement complet, mais on lui laisse des heures l'entière disposition. Et ça, vous n'y avez jamais songé. Patrick Lelay. Pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, de le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau disponible. Votre tête est moineau charnier, alors vous ne pouvez rien y faire. Vous n'avez que deux choix. Un, la soumission douillette. Alors vous regardez, vous vous rendez disponible, infiniment disponible, disponible jusqu'au temps. Votre cerveau sue à grosses gouttes. Son effort est palpable, il repousse les limites de votre mémoire vive, il fabrique de l'espace. Mais ça, vous ne le voyez pas. Ce que vous voyez, vous, c'est qu'on vous vend toujours plus de Coca-Cola. Alors vous vous protégez, croyez-vous, à renfort de télécommande, de métalangage protecteur, de décryptage emmitouflé sous des oripeaux talismans. 2. La désertion. De ces désertions viles, automutilation, tranchage iris pupille, fin de cécité putride, puritaines abstractions de négationnisme en cours. Vous détournez la tête de l'écran quand s'y agite Vidéodrome. Vous ne voulez pas voir, vous ne voulez pas être. Vous voulez dire « je ne sais pas, je ne saurais pas, nous ne savions pas ». Alors vous ne comprenez pas, vous ne comprenez rien. Votre tête est pleine d'oiseaux morts. Vous dites « je ne veux pas qu'on vende mon temps de cerveau disponible ». Vous ne voyez pas que la seule façon d'endiguer le processus de formatage de la mémoire vive, c'est d'écarir la phase de préparation du message. Vous ne voyez pas que vos mots sont plus morts encore que vos oiseaux. Il y a eu un jadis où l'on pouvait encore s'estimer très lucide lorsque ce spamodiait « ce n'est pas nous qui pensons la télévision, c'est la télévision qui nous pense ». Nous ne sommes plus pensés par la télévision. La télévision ne pense plus. La télévision nous prépare juste entre deux messages. La télévision est préparatrice de temps de cerveau, juste préparatrice. La Star Academy est un work in progress de la préparation de temps de cerveau disponible. Le formatage est en direct et de chaque côté du miroir, les crânes se remplissent d'oiseaux morts.
Vie à la nouvelle chair.
Et c'est Chloé Delhomme, toujours aussi virulente sur sa critique des médias, toujours aussi médiatique aussi. Alors, est-ce que ça en fait une personne ambivalente, je sais pas, ça reste à débattre, mon cher
François. Non, Bourdieu a critiqué les médias sans, tout en restant intègre et absolument pas ambivalent, tous les Bourdivins le savent.
Oui, sauf que
problème.
Bourdieu n'était pas un monstre médiatique non plus.
Non, ça va, Chloé Delhomme est encore loin d'être un monstre médiatique.
Tu sais qu'elle était chroniqueuse quand même sur l'émission de Schneiderman, passé un moment, sur Arrêt sur Image, je crois que je l'avais vu, comme ça revenait régulièrement.
Oui. Elle reste dans cette marge-là de la critique des médias, elle mettra du temps à être vraiment sur le devant de la scène. Aujourd'hui, pour être sur le devant de la scène dans les médias, il faut quand même passer aux grosses heures de TF1 et d'M6 et de France 2. Quoi.
Oui, ou alors sortir vraiment des énormités ou des scoops triés sur le volet. Quoi.
Ou avoir des énormes seins, et c'est le cas de toutes les personnes qu'on va croiser dans nos émissions Mardi Backroom. Il est temps de présenter justement voilà, ce deuxième volet. La semaine prochaine, vous n'aurez pas rendez-vous avec nos douces voix, bien que si elles seront là, mais pas en studio, elles seront délocalisées, comme on dit, hors les murs, car nous attaquons notre séance, notre parcours dans la ville. Et le premier à s'être prêté à notre jeu Mardi Backroom, c'est Dimoné, musicien qu'on connaît bien à Divergence, qui est passé de multiples fois ici en interview, en son, en tout ce qu'on veut, en showcase. Et Dimoné s'est prêté justement à ce jeu, c'est-à-dire pouvoir nous suivre toute une soirée. Ça commence avec un vernissage chez Agnès B, ça continue chez lui, ça, ensuite on est dans un restaurant, on finit au Rockstore, et ça c'est comment finalement on peut créer un chemin avec une personne et rentrer dans son intimité.
Et il nous a suivis et il a eu la force, hein, parce que c'est pas quelqu'un qui sort beaucoup, Dimoné.
Il vous a suivi ou vous l'avez suivi? Les deux, hein, c'est ça.
On l'a suivi au début, il nous a un peu suivi après. Bon, c'est vrai. Mais il était content, hein, il était content. Et puis on était trois, c'est impressionnant. Il y avait notre ami Manu Plaza qui était arrivé derrière la vitre de l'aquarium. Les auditeurs ne voient pas, mais ils vont sentir sa petite patte.
Oui, tiens.
Si, ça y est, ils l'entendent. Et Dimoné s'est prêté au jeu de façon extrêmement sympathique. Il nous a ouvert sa maison, on a discuté de choses dont on ne discute pas quand on est dans un studio, quand on est en interview directement. C'est ça, hein, le principe de l'émission, en tout cas c'est ce qu'on recherche.
Et tout ça, au final, ça fait 1h30, c'est mardi prochain, mais pour l'heure, écoutons un petit teaser pour vous donner l'eau à la bouche. Nous sommes trois ce soir, on entoure M. Dimoné avec nos machines infernales pour capter le son et le temps. On se rencontre ici pour la première fois, c'est où? C'est Agnès B. Agnès B. qui fait un vernissage.
T'as déjà eu autant d'intervieweurs pour ça?
Non, et ça c'est parce que c'est à la case, à la maison.
Et on va rentrer dans l'expo, tu vas regarder un petit peu les clichés, tu vas voir, c'est un univers que tu connais bien, tu vas pas te sentir étranger à cette exposition. C'est que du rock'n'roll et je pense qu'il y a même peut-être des photos que tu regardais à l'époque sur Rock et Folk, il y en a même peut-être que tu as affiché dans ta chambre d'adolescent, je ne sais pas. Et après tu vas rencontrer le photographe et comme ça, il y aura une espèce de bœuf qui ne bouge pas.
Souvent la nuit, je ne sais plus où dormir. Les ombres se jouent de moi. Il y a comme du drayer là-dessous, du son de cloche.
Ça c'est pas mal. C'est mythique, hein. Mythique. C'est un survivant, notre photographe, là, Pierre Bellien. Il vivait l'excès par procuration, comme nous tous. Hein. Et lui, il était là pour prendre certaines scènes de vie, on va dire. Et là, au flash, hein, derrière la palissade.
On dirait, oui,
c'est hein. Ah ouais, là, c'est vraiment. Sentez le stade.
On explique, hein, c'est Joey Ramone.
Et puis Steve Bator.
Ouais. Et une blonde qui est agenouillée devant Joey Ramone, qui lui tient la tête. Il est content, Joey.
Il a l'air du bon pote, c'est plutôt Steve Bator qui a l'air.
Il attend son tour.
Ouais, il attend lui, ou alors. Mais il a un côté androgyne, là, tout d'un coup, Joey Ramone. Il a une peau de femme, encore une fois.
Il dirait Bachung un peu, lui, là, hein. Il y a quelque chose. Là, il y a du Dominique Sony, comme. Enfin, bon, c'est toujours pareil, l'iconographie, tu vois, tu y vas. Il y a les autres derrière, voilà. Hein. Fils de joie, quand même, hein.
Ouais.
Il y avait Joli Garçon à l'époque, Taxi Girl, ça jouait beaucoup sur l'androgynie en France dans la pop, quoi.
À Poly, on avait un groupe comme ça aussi.
C'était Regret. Non, avec Fred Vincent à la guitare.
Givaros.
C'était beaucoup plus axé rock'n'roll, ils étaient très guitare, c'était plus bijoux quand même.
Ouais.
Il y avait plutôt Regret dans cette veine de couleurs, quoi. Dans cette couleur-là. Mais c'était surtout ici, c'était Joli Garçon. Vraiment à 7, quoi. Il y avait Voilà, j'adorais vraiment ça. J'aimais beaucoup cette pop-là, ce côté venimeux, quoi. Qu'il y a dans, voilà, le gars cherche à se suicider, il ne sait pas s'il saute de la tour Eiffel ou de la tour Montparnasse. S'il prend la corde, le gars, et puis c'est frais. Il y a une élégance au morbide, quoi. Et enfin, je trouve que c'est... Je pourrais imaginer très bien que là, maintenant, il y en a un qui soit suicidé, si tu veux. Alors que, voilà... Bon, pour dire...
C'est étouffant avec des collants de femmes.
C'est inécoutable. C'est pénible. Après, il y a la rue, hein, qui est...
Au secours ! C'est l'heure de la bagarre.
Ah, vous voilà, vous.
Bah là, nous on allait boire une bière là, du coup. Eh, on va boire une bière ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est, des bidasses? Ah, vous faites un. Ça, c'est un drôle. Les gens qui vont. Alors, t'es content? Et t'as vu la voiture au-dessus de toi?
Non, mais tu
Ma bite touche mon ventre. Ma bite touche mon ventre. Et quand je bande plus.
Ma bite touche mon cul.
Ma bite touche mon cul.
Alors, ouais.
Un petit extrait. Alors, imaginez, ouais, là, c'est assez brut encore. Il y a du travail de montage qui va être fait, évidemment. Mais voilà, c'est juste un aperçu. On commence à parler de façon très sérieuse. On finit avec des bidasses en folie. Et ça
c'était
va
bidasses,
être comme
hein.
Ça. Ouais, c'était des bidasses. Oh, putain, ouais. On n'avait pas forcément le droit de le dire à l'antenne, mais on prend certaines libertés. Ils nous avaient mis en garde.
Ouais, mais tant que tu donnes pas les noms.
Exactement. Donc,
ah, faut pas dire que c'était l'équipe de volleyball de...
menée par Jean-Luc Michaud. Bon, désolé. Voilà, c'est un petit avant-goût de ce qu'on pourra écouter la semaine prochaine, mardi, Backroom, une fois par mois. Et le premier est signé Di Monet. On se retrouve en plateau avec un sujet, c'est les rencontres internationales de la guitare.
Les internationales de
les
la
internationales
guitare.
Les internationales de la guitare qui se passent à Montpellier. Et
qui démarre demain, surtout.
Qui démarre demain avec un beau sujet sur Leitmotiv qui
ouais,
a
ouais,
bien
on a
argumenté
fait,
dessus, un 4 pages.
6, monsieur.
6 pages.
On en a fait 6. Bon, il y a des photos aussi dedans. Hein. Mais ben, on a estimé quand même que ce festival qui est à 14e, je crois, 13e ou 14e, cette année a pris un volume encore plus important. Et surtout, c'est ouvert. Peut-être c'est des questions qu'on posera à notre invité là, qui va arriver au téléphone, Fabrice, qui est l'intendant. Voilà, c'est pour les gens qui connaissent un peu... les organisateurs, enfin, ont entendu parler, c'est Tel Atensin Gabi et son intendant. Donc, il s'est ouvert. Il y a des gens comme Pierce Faccini ou Isia, qu'on va écouter juste après. Donc, on va pas dire que l'affiche s'est totalement rajeunie, mais commence à aller voir un peu partout avant. On pouvait quand même dire que les Internationales étaient un festival un peu de vieux. Voilà. C'était un peu ça.
Je sais pas,
avec
on
des
va,
vieux.
On va essayer
pour
de
les vieux ou, alors, et, ou pour des jeunes qui aimaient bien la musique de vieux ou des vieilles musiques. C'est à peu près. À peu près ça, et après les musiques du monde, évidemment, parce qu'il y a quand même beaucoup, toujours beaucoup de flamenco, de fado. On détaillera un peu plus, puis on posera des questions. Donc,
ben justement, peut-être ça sera l'objet d'une première question. Fabrice, intendant du festival, est-ce que c'était vraiment un festival de vieux? Pour l'heure, on écoute un premier morceau extrait de cette programmation, c'est Isia.
Isia, qui elle, pour le coup, est très jeune, parce qu'elle a à peine 18 ans, c'est la fille d'Igelin. Voilà,
mais ce n'est pas que la fille d'Igelin, apparemment. C'est quand même quelqu'un qui s'affirme avec une identité
c'est
propre.
C'est justement. Elle va se le coltiner. Elle va se le coltiner pas mal de temps quand le fils de quelqu'un, surtout d'aussi connu dans la chanson et la musique française. Ceci dit, elle n'est pas juste là parce que papa lui a fait signer chez Universal, même si elle est chez Universal. Elle fait du vrai rock'n'roll, mais vraiment. Assez direct, sans trop de fioritures. On l'a vu sur scène au Printemps de Bourges, on en avait parlé quand on
c'était
était revenu.
C'était une grosse sensation du
Printemps. C'était une grosse sensation, il avait fait jouer en premier en plus sur un plateau, je ne me rappelais plus ce qu'il y avait derrière, mais il fallait ouvrir quand même sur le gros chapiteau, la grande scène de Bourges, et elle était arrivée et elle avait fait son set d'une manière assez admirable pendant demi-heure, sans chichi, sans fanfreluche, hein, sans toutes ces petites choses qu'on voit chez les baby rockers en général, hein, qui évidemment ont... se soignent extrêmement, voire excessivement leur look. Elle, c'est pas ça. En plus, elle est très bien entourée. Pour le coup, là, ses musiciens sont un peu plus anciens.
Justement, elle joue avec les musiciens de Tokyo Hotel, je crois savoir.
Ça, je ne savais pas.
Il n'y a pas de musiciens dans Tokyo Hotel, enfin.
On écoute, c'est Isia et c'est de suite. Sur Divergence FM 93.9 pour annoncer les internationales de la guitare. Et on a une personne au bout du fil. Salut Fabrice.
Bonsoir.
Bonsoir. J'imagine que ça doit être un peu speed. Désolé de prendre comme ça à la volée.
À la veille
de l'ouverture.
Non, je vous en prie, ça va encore en fait. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu chaud, mais au bout de 14 ans, on commence à savoir comment ça fonctionne.
Et justement, au bout de 14 ans, comment on arrive encore à avoir cette énergie de vouloir se renouveler et impulser de nouvelles choses? Car cette édition marque pas mal de nouvelles choses, justement.
En fait, l'énergie, on la trouve là, justement. C'est de ne pas avoir un festival statique, d'avoir un festival en fait qui n'est pas fait par quelques personnes, mais qui est vraiment en lien avec la cité, avec beaucoup de structures partenaires, avec beaucoup d'associations, et donc un festival qui se renouvelle en permanence. Et c'est ça, c'est ces nouveaux défis donc qu'on met en place chaque année, même s'il y a une continuité, puisque le travail dans les quartiers sur des volets comme Montpellier se fait la belle, c'est des choses que le festival a commencé à travailler il y a une dizaine d'années en fait. Mais c'est vrai que c'est des challenges qu'on lève chaque année, c'est des nouveaux artistes. Chaque festival doit être en continuité avec ses précédents et en même temps se renouveler totalement.
Alors Ludovic, à notre micro, disait, alors je ne sais pas si ça peut être pris comme une pique ou finalement quelque chose dont on peut être fier, il pense que cette année, la programmation se renouvelle et se rajeunit finalement.
S'équilibre, ouais, on va dire.
S'équilibre peut-être.
Ce que veut dire Ludo, c'est qu'elle est moins patrimoniale.
Le festival, quand on a commencé il y a 14 ans, c'est vrai qu'on était plutôt classique, hein, mais la guitare, c'est un instrument qui est tellement universel, où on peut faire du classique, du rock, du blues, du manouche, de l'électro. Petit à petit, le festival est amené à aller sur un public plus jeune, sur des musiques actuelles, sur des choses plus modernes. Mmh. Mais c'est vrai que c'est pas des choses qu'on peut arriver du jour au lendemain. Le festival a une tradition. On est allé petit à petit chaque année avec un peu plus de mouvement, un peu plus de rock dans le festival. Et cette année, c'est vrai que c'est un petit peu l'apothéose d'une mutation que le festival a fait il y a quelques années pour vraiment couvrir tout le panel de la guitare en fait. Mais c'est pas vraiment une révolution, c'est plutôt une évolution normale.
Oui, parce qu'il y a les styles, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, c'est parti sur du classique, du jazz, donc voilà, il y a le rock, mais il y a aussi...
Oui.
Toujours là, Fabrice. Et il y a aussi des groupes un peu plus jeunes, c'est vrai. Tout à l'heure, oui, c'était une pique, je disais que c'était un peu un festival de vieux, oui, c'est à peu près ça que je disais. Là, il y a quand même des groupes, voilà, on vient d'écouter Izia, on peut parler de Thomas Fersen aussi.
C'est un festival de vieux. Il y a quelques années, on avait déjà fait Olivia Ruiz en 2003, avant qu'il remplisse le Zénith. L'année dernière, on avait Caravan Palace.
Oui, voilà, je dis pas cette année, depuis les
champions. Donc, effectivement, on a aussi tout public en fait. Mais vous serez étonné de voir quand même que dans les concerts classiques, la moyenne d'âge est beaucoup moins élevée que dans certains concerts au Rockstar. Sur le Sud Manouche aussi, on a une population en fait assez jeune en festival sur des concerts de Manouche, sur des concerts de classiques, sur des concerts évidemment Rockstar aussi, même si c'est très très mélangé. C'est un peu ça aussi qui est assez drôle dans le festival, c'est qu'on se retrouve dans des salles comme l'Opéra Comédie ou le Rockstar avec une population qui est assez mixte, qui est assez mélangée, et avec aussi bien des gens de 50-60 ans au Rockstar et des jeunes de 20 ans dans des salles comme l'Opéra Comédie. Il y a vraiment une mixité qui est intéressante là-dessus. Donc le festival n'est pas si un festival de vieux que ça.
D'accord. Une des innovations aussi qui d'ailleurs prend un spectre plus large au niveau d'une journée, ça s'appelle les 24 heures des Mantes, c'est-à-dire ça démarre à 10h du matin le samedi 10.
C'était le 24 heures des Mantes, c'est un projet en fait qu'on travaille depuis quelques années. On avait envie de faire un petit clin d'œil, un marathon pendant toute une journée sur la guitare. Et c'est vrai que cette année, c'est la première édition avec pas mal de choses en fait qui seront présentées, hein, aussi bien des concerts au Trioletto avec Charlie et Lily Frost, là encore deux jeunes artistes pour les jeunes. On aura un ciné-concert avec le Skeleton Band, encore un jeune groupe de Montpellier, qui ont fait une création sur quelque chose qui est un peu plus vieux. C'est le cabinet de Dr Caligari, donc un film des années 20, en muet. Donc il y aura une bande-son qui sera faite directement par le Skeleton Band en live. Il y aura toute une soirée DJ avec deux DJ au Rockstar, il y aura Opéra Rome. C'est un marathon en fait sur un parcours qui va commencer le samedi 10 à 10h, qui se terminera le dimanche 11 à 10h au Café Joseph.
Ah ben ça promet.
C'est une première édition.
Vous allez relayer
Sur une ville comme Montpellier, où c'est la ville où le soleil se couche jamais, peut-être que cette année, on va arriver vraiment à faire 24 heures non-stop et nuit complète.
Alors ce qu'on oublie souvent, c'est qu'au-delà des concerts et de toutes les soirées programmées dans le cadre du festival, il y a aussi tout un volet pour les professionnels de la guitare, et vous êtes devenu finalement un des salons les plus importants en France.
Oui, le travail sur la lutherie, c'est un travail que Confluence fait en marge du festival depuis de nombreuses années. C'est un travail qui est soutenu essentiellement par la région Languedoc-Roussillon. Et c'est vrai que toute l'année, Confluence accompagne et aide les luthiers artisans de guitare dans la région avec des bourses de recherche, avec des aides au transport et à l'exportation pour exposer à l'étranger, avec des aides aux communications, en promotion. Et c'est vrai qu'on a monté depuis maintenant 12 ans un salon de lutherie artisanale à Montpellier qui, au fil des ans, restait vraiment centré et est devenu cette année un des plus grands salons de lutherie artisanale en France, puisqu'il y aura plus d'une cinquantaine de luthiers qui viennent de toute la France, mais aussi d'Italie, qui viennent d'Espagne, d'Angleterre, d'Allemagne, avec tous les instruments de la famille des cordes pincées qui seront représentés, puisqu'il y aura aussi bien des clavecins, des épinettes des Vosges, des luths, des ouds, bien sûr, guitare électrique, classique, flamenco, manouche, il y aura des basses, il y aura vraiment tout type d'instruments, des instruments customisés, des instruments rares, et également la présentation, comme chaque année, d'une guitare prototype qui a été construite par un luthier de la région, grâce à une bourse de recherche qu'on lui a attribuée. Et cette année, donc, c'est Luigi Notarangelo, luthier à Pézenas, qui a fabriqué une guitare en fait qui répond aux normes du développement durable, avec des essences de bois locales plutôt que des essences de bois qui viennent d'Amérique du Sud ou d'Afrique, d'accord, avec des vernis écologiques, et en même temps c'est une innovation technologique sur toute la partie de captation du son de cette guitare. Donc c'est vrai que le salon, le festival en fait de guitare de Montpellier est un petit peu un festival intégré où on retrouve les concerts avec des valeurs sûres, des jeunes talents, avec tout un réseau social sur la ville, avec des animations un petit peu partout, avec un côté professionnel avec les luthiers, avec la formation, puisqu'il y aura aussi 7 stages qui sont proposés pour tous les niveaux, avec Chicuelo, avec Thierry Panté, avec Gérard Pansanel, avec des stages d'initiation. Donc c'est vraiment, le festival est vraiment intégré avec toutes les parties qui s'approchent de près ou de loin à la guitare.
Merci beaucoup Fabrice. Je pense que tous les Montpelliérains ont vu le programme parce que vous êtes extrêmement bien diffusé.
On a vu le gorille.
Et ouais, ce gorille.
Pourquoi d'ailleurs un gorille ?
Ah, le gorille, je crois, revêt une police. J'ai lu notamment la rencontre, l'interview qu'il y a de Talat dans le dernier Leitmotiv. Et c'est vrai que ce gorille revêt une dimension assez politique, semble-t-il.
Oui, le festival, le festival a toujours eu ce petit côté politique, en fait, dans le sens noble du terme, en défendant des valeurs. Et c'est vrai que à chaque période, à chaque année, le festival essaie d'avoir un visuel qui correspond un petit peu à les valeurs à défendre sur cette période. Et puis, en ce moment, je crois qu'il y a pas mal de choses à défendre, et surtout la culture, quand on voit la crise et ce qu'on veut en faire.
Merci beaucoup. Pour conclure ce sujet, nous allons justement écouter un extrait de Ojos de Brujo, Ojos de Brujo, les yeux du sorcier en espagnol. Un groupe justement qui a su mixer depuis quelques années le flamenco et des techniques beaucoup plus modernes, et la guitare est au centre de tout ça.
Merci Fabrice.
Merci.
Bon festival. À bientôt.
Et oui, ça, c'est un cut assez abrupt. On se retrouve sur le plateau de Mardi Blabla Divergence FM 93.9, évidemment, et avec la présentation justement du troisième volet de ces mardis que l'on retrouvera tous les mois, et c'est le Mardi Miam Miam.
Ah, Mardi Miam Miam, c'est l'art et la culture et comment ça se marie. C'est vrai qu'on avait envie d'avoir ce côté-là, qu'est-ce qui nourrit les artistes, quel est le rapport qu'ils ont à ça, est-ce que les chefs ont un rapport à l'art et comment ça se passe, comment ça se trouve. Alors on est allé chercher un des artistes de la région qui a certainement le rapport le plus abouti à la gastronomie, c'est Hervé Di Rosa, qui depuis longtemps creuse un sillon autour de ces rapports-là au sein du MIAM, l'établissement muséal dont il est le fondateur, le Musée international des arts modestes à Sète, dans lequel il y a eu de nombreuses expositions qui tournent autour de ce thème de la nourriture culture, de l'art.
Miam miam glou glou.
Il y a eu les miam miam glou glou.
Et c'est le cas encore, justement, nous l'évoquerons en fin d'émission avec l'exposition À table qui est gérée par les Beaux-Arts de Sète. Et c'est vrai qu'Hervé Di Rosa, figure tutélaire de tout un pan artistique de la région, cet inventeur, enfin un des cofondateurs aussi de la figuration libre aux côtés de Combas, et un amoureux de la gastronomie. Et la rencontre a été avec Thierry Alix, qui est un chef sorti du Jardin d'Essence, mais sorti d'un parcours très atypique et qui vient de monter, il y a à peine 2 mois, son restaurant sur la promenade du Lido à Sète, un restaurant extrêmement fin et raffiné, autant que cette personne, ce chef, ça a été une rencontre absolument délicieuse.
Alors, nos deux invités, en tout cas notre hôte et nos invités se connaissaient, puisqu'ils avaient déjà travaillé ensemble autour de projets, justement, qui mariaient l'art et la culture. Et on va le voir dans le tout petit teaser, le petit teaser de 5-6 minutes que vous avez là. Comment ils sont redécouverts après quelques années, parce que Hervé Di Rosa vient plus très très souvent à Sète, c'est plus sa ville, hein. Il habitait pendant longtemps à Miami, il vient de déménager à Séville, et donc il nous a fait le plaisir de passer quelques heures avec nous dans ce magnifique restaurant.
Nous vous proposons un petit teaser de Mardi Miam Miam, émission qu'on retrouvera tous les troisièmes mardis du mois.
Mardi Miam Miam. Mardi, miam, miam.
Moi, je veux être connu, tu sais pourquoi? Pour niquer les gonzesses. Quand t'es célèbre, tu niques plein de gonzesses. Et puis aussi, tu bouffes des trucs bien meilleurs qu'ici.
Et moi, pour les gonzesses, je suis super d'accord avec toi. Mais pour la bouffe, je vois pas ce que tu veux dire. T'aurais envie de manger quoi, exactement?
Bah, je sais pas. Par exemple, une quiche Lorraine.
Une wish.
Une quoi?
On dit une wish Lorraine.
T'es sûr? Ça fait bizarre, Wish Lorraine.
Mardi.
Miam, miam.
Où va-t-on, François?
Nous allons chez Thierry Alix, un nouveau restaurant à Sète, où nous allons retrouver Hervé Di Rosa et son agent, François Bémin.
C'est une huître accompagnée de son émulsion de pomme Granny Smith à l'huile d'olive avec un zeste de citron.
C'était quoi votre premier rapport avec Thierry Ali?
Oh, on en avait un projet. C'était, je m'en...
Moule.
Oui, non, c'était un projet de cuisine avec le ministère de la culture ou de l'éducation, je ne me souviens plus très bien.
Je crois que c'était l'éducation, ouais.
Où il voulait associer un artiste, donc là c'était moi, mais il y avait un projet avec plusieurs artistes, et des cuisiniers. Donc ils avaient invité les frères Pourcel, à l'époque Thierry Alix travaillait avec eux, très prochement. Et donc on avait présenté à partir de produits très simples, mais comme là d'ailleurs, des espèces de cuisine modeste, entre guillemets, comment à partir de produits simples on pouvait aller vers des choses dans le haut de gamme au niveau gustatif. Et donc, il avait travaillé sur la moule. Et donc, c'était des écoles, je ne me rappelle plus où c'était, mais c'était lointaine de banlieue parisienne, et c'était une espèce d'IUT de cuisine, justement. Mmh. Voilà. Et donc, il avait animé, moi j'avais parlé, moi, j'avais fait un peu mon show habituel, mais lui avait animé des ateliers cuisine avec ses jeunes. Et il avait été... c'était pas facile, hein. C'était pas facile, mais il avait été formidable. C'est là qu'on s'est rencontrés, en fait.
Sur une nappe de restaurant, j'ai écrit cette chanson en pensant à tous les gens qui ne font qu'une collation.
Là, on revient sur le repas, là.
Ah, oui, c'est parce que là, vraiment, il faut aussi
parler quand même. C'est extraordinaire. La mozza, c'est quelque chose, hein.
C'est vrai. Surtout Thomas qu'en plus,
moi je déteste ça.
Surtout là, oui, je n'aime pas la mozzarella. Et là, qu'est-ce que c'est bon?
C'est bon.
C'est presque pas la mozzarella là, hein, franchement, c'est autre chose. Je sais pas ce que c'est bon. Et l'amande,
Et l'amande.
L'amande, c'est une bonne idée.
Les fleurettes et tout ça, c'est génial. C'est rien.
plein de petites touches, hop, c'est bien. La magie est faite. Mais malgré tout, je pense que pour lui, c'est une grande réflexion, tout ça, hein, le mariage.
Mais c'est des années de boulot, quoi. C'est comme tout. C'est...
Et pour vous, un grand cuisinier, c'est le même acte de création que vous, plasticien.
Alors là, bon, là, il y a un truc où je suis un peu... ces dernières... à partir des années 80-90, là, je suis pas trop... pas d'accord, parce que c'est pas sur les mêmes trucs. On a commencé à vendre la cuisine, la mode, hein, c'est un peu la mode, l'industrie du luxe, qui a été associée avec l'art contemporain, l'industrie du luxe qui a été associée avec la cuisine aussi. Oui. Hein, ça a été vraiment un vrai tournant dans les années 80-90 pour ça. Et on a parlé d'art. Hein, mais moi, je pense que c'est quand même pas... Je pense que c'est pas la même réflexion, le même travail. Je pense que c'est un peu facile et on... un peu superficiel de dire que la cuisine c'est un art, que le truc c'est... À ce moment-là, tout est un art. C'est une pratique comme la mode, comme qui peut être de très haut niveau, mais c'est une pratique de consommation. Hein? Quand on fait de la peinture ou de l'écriture ou de la musique, c'est une réflexion qui se... Parce que même maintenant, l'art contemporain devient la consommation. Hein. On vend des méga expositions comme Jeff Koons à consommer, tout ça. Mais je ne suis pas trop dans cette ligne. Mais comme je suis un défenseur de l'art modeste et que je pense qu'il peut y avoir dans un jouet en plastique autant de puissance esthétique, culturelle, affective et tout ce qu'on veut que dans un chef-d'œuvre ou dans un artiste. Dans une œuvre d'art, dirions-nous plus réelle, une peinture, une sculpture, je fais pas. C'est, je pense qu'il faut faire des catégories. Il y en a, on peut pas tout mélanger, mais je fais pas les échelles de valeur. La history of French cuisine.
Et voilà. C'était un petit avant-goût de ce mardi miam miam avec
Hervé
Di Rosa, une petite mise en bouche, et ça passera le 13 octobre sur Divergence FM, évidemment. Et voilà, d'ici là, on aura retrouvé Dimoné la semaine prochaine avec Mardi Backroom. Hervé Di Rosa est une transition très bien choisie pour continuer sur ce volet des arts plastiques et vous présenter notamment le Salon du Dessin Contemporain. Exactement. Le Salon du Dessin se tient à Sainte-Anne, à Montpellier.
C'est le premier.
Ouais, c'est le premier. Et c'est du 14 au 18 octobre. Et il y a toute une panoplie de galeries qui sont associées, qui est associée à ce salon-là. Alors, le Salon du Dessin, quand on imagine, on pense au dessin, on a l'impression que c'est une forme un petit peu datée. Mais voilà, il y a le dessin contemporain qui est là. Et dans quelques secondes, c'est Annette Longchamp, galeriste, qui a fait voilà, les belles heures de ETC Galerie. ETC qui s'est arrêté il y a quelques temps, quelques mois. Mais aujourd'hui, elle reprend son activité de galeriste, notamment comme ça, à travers ce salon-là. Ce salon-là, il est présenté au Carré Sainte-Anne, comme le disait, avec un soutien de la ville. Les Beaux-Arts sont impliqués. Et c'est aussi toutes les galeries.
Les neuf galeries de Montpellier qui sont partenaires, c'est-à-dire l'Alma, Aperto, la Boîte Noire, l'ETC, tu en as parlé, GM, l'Iconoscope, Hélène Trintignant et Vassistas. Les huit galeries, je me trompe, il y en a huit, non, il y en a neuf. Les huit galeries qui se sont mis ensemble pour essayer de montrer que aujourd'hui, dans l'art contemporain, il n'y a pas que de l'objet, il n'y a pas que de la performance. Il y a aussi un retour à un travail de la main, au dessin, à des choses qui sont extrêmement simples. C'est aussi une façon de montrer que l'art contemporain, c'est un produit qui peut être très, très accessible.
Oui, ils avaient fait un programme d'ailleurs, sous forme de parcours, hein, qui distribuait... à Montpellier, ça fait un moment qu'ils ne l'ont pas refait.
Ces huit galeries-là, oui, tout à fait. Ouais, elles se sont déjà associées depuis deux ans pour avoir un petit programme commun là, tous les mois ou tous les deux mois.
Qui permettait de voir ces sept
et comme quoi, hein, chaque fois. Dans une même journée. En commençant à travailler ensemble sur les toutes petites choses, on finit par faire des choses un peu plus grandes. Et Annette va nous en parler. Mais
exactement. Et ce salon montre vraiment qu'il y a une étendue... très très vaste dans ces champs justement du dessin, c'est-à-dire qu'on peut, nous quand on pense au dessin en général, nous simples profanes de cet art, on pense à un dessin, mais il y a mille façons de faire du dessin. Et justement, c'est ce à quoi se sont attelés tous ces galeristes, c'est nous montrer les mille façons de faire du dessin aujourd'hui.
Est-ce qu'on a Annette Longchamp
est au téléphone. Salut Annette.
Oui. Ah, bonjour tout le monde.
Salut. J'imagine Annette que après les belles années de TC, on t'a écouté ici plusieurs fois parce que t'as été une invitée de choix et ce lieu, on l'a choyé, on l'a aimé. Tu reviens justement sur cette scène des galeries, ça doit te faire extrêmement plaisir.
Absolument. Oui, ça me permet de faire une belle rentrée et de voir tout le monde et de montrer surtout ce que j'ai à dire aussi de ce côté-là.
Alors, dis-nous ce que tu as à dire. Parle-nous un peu de ce salon du dessin contemporain. Qu'est-ce qu'on va y voir ?
Alors, oui, justement, en fait, donc, vous avez déjà peut-être parlé de ça. Il y a donc les 8 galeries, Alma, Aperto, Boîte Noire, ETC, Iconoscope, Hélène Trintignant, Valdistas. Donc, chacun a déjà son univers, et pas forcément spécialisé dans le dessin, d'ailleurs. Mais le paysage du dessin contemporain a vraiment beaucoup évolué. On l'a vu, les autres salons, dans d'autres villes, d'ailleurs. On est loin d'être les premiers. Mais donc, des commandes à des artistes qui sont plutôt plasticiens, qui font du volume, et de leur demander de s'exprimer par rapport au dessin, ce que j'ai fait en particulier. Et après, donc, Alma avait déjà, par exemple, ou Iconoscope, beaucoup d'artistes qui présentaient du dessin. Vous avez peut-être déjà vu Boulard et Vitré.
Exactement. Alors, j'imagine Bénard. Forcément que, donc, selon les galeristes, l'exercice a été plus périlleux ou plus intéressant finalement. Toi, tu dis, t'as plus l'habitude d'être en lien avec des gens qui manient du volume ou de l'installation. Et là, tu leur as un petit peu soufflé l'idée de pour cette occasion de se mettre au dessin. J'imagine que c'est un beau challenge à proposer.
Voilà, oui, pour certains artistes, en tout cas, parmi les 6 que je propose, effectivement, ce sont plutôt des sculpteurs ou des vidéastes. Par exemple, Rémi Dallaglio, lui, va traiter du dessin avec une pièce en volume, mais ce sera interactif. Par exemple, donc, il y a un grand compas qui va tracer un cercle noir au charbon quand les spectateurs, on pourrait le dire presque, ou en tout cas les visiteurs se présenteront devant. Donc, c'est du dessin quand même, mais ça reste une installation du volume qui traite du dessin, en fait.
Et de la trace, ouais.
Exactement. Voilà.
Et c'est un exemple. C'est aussi un moyen de refaire vivre ce réseau, parce que j'ai l'impression que depuis quelques temps, le réseau des galeristes, qui avait donné de très beaux événements, toutes ces nocturnes qu'on avait pu voir, était un petit peu, mis en suspens. Et là, aujourd'hui, vous remobilisez pour faire quelque chose en commun.
Voilà. Et en fait, là, l'idée, c'est que effectivement, ça a pris pas mal de temps, là, cette organisation. Et puis, on prévoit déjà la deuxième édition, parce que là, l'idée, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a la CCI comme partenaire. Et donc, on a décidé d'inviter les chefs d'entreprise, les décideurs au niveau économique de la ville et de les briefer, en quelque sorte, sur le mécénat, sur les possibilités, voilà, le mécénat d'entreprise, pour que l'année prochaine, si on refait, on puisse lancer un concours ou la production d'une œuvre, ou donc aller un peu plus loin pour que le public de Montpellier s'implique même par rapport aux arts plastiques. Ça nous permet effectivement de recontacter le public, de rassembler nos réseaux à tous et effectivement de prévoir ce qui va se passer ensuite. Quoi,
est-ce que tu sens aujourd'hui que ce milieu entrepreneurial est prêt pour ce type de formule, type mécénat ?
C'est ce qu'on voit justement. On va les inviter donc à venir sur place. Il y aura quelqu'un qui pourra répondre à toutes leurs questions concernant voilà, les avantages fiscaux, le mécénat et puis sur le milieu des arts plastiques, parce que pour certains... ils ne le connaissent absolument pas, mais voir à quel moment ça peut être intéressant pour eux aussi, pour leur entreprise et pour leur personnel d'ailleurs. Et là, on va le voir, comment ça va être reçu, mais a priori, en tout cas, la Chambre du Commerce nous soutient et a décidé de disposition leur fichier, par exemple. Donc c'est plutôt un bon signe.
C'est un bon début.
Toi, là, pour l'instant, est-ce que j'imagine que tu as déjà porté un œil sur la production des artistes que tu as envie de promouvoir. Est-ce qu'il y a déjà des choses comme ça que tu peux nous dire un peu en clin d'œil avant-première sur des choses qu'il ne faudra pas rater du côté de l'ETC ?
Ah, du côté de l'ETC, ça va faire crack-boom-u, comme je disais sur mon texte de présentation. Parce qu'effectivement... je prends une direction, enfin, avec eux, Je leur ai donné carte blanche hein, pour la plupart, c'est des fortes personnalités. Donc, par exemple, Axel Caruso risque de nous étonner.
J'imagine.
Voilà. Guillaume Abdi, qu'on a déjà vu à ETC, va refaire son expérience avec les allumettes, mais pour faire un clin d'œil au marquis de Sade. Donc, il va quand même mettre le feu à une des six messes de Sainte-Anne. Donc, voilà. Et puis, Stéphanie Nam. Que j'ai jamais montré encore, mais qui va faire une donation justement en octobre au musée de Sérignan d'un de ses dessins, qui est vraiment une artiste intéressante, qui travaille aussi avec Cure, qui enseigne à l'école de la Villette, mais qui a une approche du dessin vraiment. C'était difficile de le décrire, honnêtement.
J'imagine. Donc, crac boum U, donc ça sera chaud. Essentiel. Merci beaucoup Annette. Le salon du dessin contemporain, merci, c'est à Montpellier, au Carré Sainte-Anne, du 14 au 18 octobre.
Absolument. Le vernissage, donc, à 18h le 14.
Si. Merci Annette. Voilà. On se retrouve bientôt.
Bonne soirée à tous.
Salut.
À bientôt.
Au
revoir.
On a un dernier rendez-vous à présenter aux auditeurs, Vincent.
Oui, un dernier rendez-vous téléphonique, tu veux dire ?
Non, pas téléphonique, non.
À quel niveau ?
Un dernier rendez-vous d'émission.
Ah oui, effectivement. Merci. Le dernier rendez-vous d'émission à présenter, c'est le mardi backstage. C'est le quatrième mardi du mois. Ça sera le 20 octobre. Et le concept est assez simple. Backstage, comme son nom l'indique en anglais, c'est on va derrière, dans les coulisses, dans les viscères, comme ça, des lieux culturels, que ce soit un lieu de spectacle, un lieu d'exposition. Et là, on a décidé de commencer avec un endroit assez illustre à Montpellier.
Le Centre dramatique national des 13 vents, hein, qui est un endroit qui en ce moment est un peu en flottement, puisqu'il attend son prochain directeur.
Exactement.
Donc ça nous semble être l'occasion d'avoir une parole ouverte.
Et avec des modalités d'élection du prochain directeur qui sont assez contestées. C'était encore même hier en première page de la lettre du spectacle où un Georges Fraîche s'insinue un petit peu comme ça et très directif dans les personnes qu'il aimerait voir à la direction. En l'occurrence, un certain monsieur Lavaudan. Mais ce n'était pas du bon ton de la ministre quand elle était encore une femme. Mais aujourd'hui, avec monsieur Mitterrand, il semble que le point d'accord pourrait se trouver. Bref, c'est pas ça la question. Nous...
Ah si, c'est intéressant.
Oui, ça c'est intéressant et on en parle justement dans l'émission. Mais pour l'heure, on écoute un petit teaser, une petite bande-annonce pour annoncer cette émission. Il n'est pas question de politique pour l'instant, mais je vous conseille d'écouter l'émission le 20 octobre. Il en sera question, notamment avec le point de vue de Julien Bouffier et Jean-Claude Fall. On écoute ça. Mais c'est quoi au juste un centre dramatique national ?
Comme son nom l'indique, c'est un centre dramatique, c'est-à-dire qu'on y fait du théâtre. Et j'allais dire exclusivement du théâtre. Et c'est très important. C'est une chose sur laquelle les gens ont beaucoup envie de revenir. Et moi, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup. Parce que je crois que la pluridisciplinarité, il faut qu'elle se fasse dans les centres dramatiques nationaux depuis le théâtre. Et non pas dispersée à tous les vents.
Un centre dramatique, c'est un centre de création d'art dramatique. C'est dirigé par un metteur en scène, à la différence des scènes nationales qui sont dirigées par des programmateurs.
Ça change un peu tout, c'est-à-dire que parce que au cœur même de l'établissement, il y a donc un artiste qui doit imaginer ses projets. Et donc que ces projets artistiques, forcément, font vivre la maison d'une autre manière, dirige le parcours de la maison. C'est aussi un lieu, puisqu'au cœur il y a un artiste, qui a priori diffuse plus dans le territoire. Le fait simplement que dans les centres dramatiques on fait des séries, on joue pas, c'est pas une représentation. Et ça, le public s'en rend pas bien compte, mais ça change beaucoup les choses. Ça change complètement le rapport au travail, le rapport au travail de toute une équipe de relations publiques, de communication, que pas de à chaque fois de travailler sur un coup où la chose elle est si vite passée que finalement sur le territoire ça s'ancre pas. C'est pas un lieu de diffusion comme un autre. C'est pas un lieu où on devrait pouvoir venir comme au multiplex d'Odysseum.
Zoubi zoubi zou. Zoubizou, bisou, zoubizou, zoubizou, le bruit des bisous.
passer par la salle.
Visite guidée des coulisses avec Gérard Espinoza, dit GG, le directeur technique du théâtre.
On est dans le couloir des loges. Là.
Toute personne a dans son imaginaire la loge de l'artiste avec toutes ses ampoules et choses comme ça.
Vous allez voir. Il n'y a pas les petites ampoules.
On en est assez proche sinon.
Ouais. Il y a un miroir en tout cas, un grand miroir, et puis effectivement de l'éclairage pour qu'ils puissent bien se voir, pour se maquiller, et puis pour s'habiller, pour se costumer. Les douches dans les loges, douches très importantes. Dans le Shakespeare, par exemple, dans le Richard III, David Ayala qui joue Richard, s'enduit d'argile. Pendant une scène d'argile, et sur le plateau il arrive sur le plateau enduit d'argile, et c'est le pauvre Tom qui c'est pas dans Richard III, c'est dans Le Roi Lear, c'est le pauvre Tom que Lear retrouve dans la forêt, et donc il arrive sur le plateau enduit d'argile, et il se met par-dessus des plumes, des feuilles séchées, enfin bon, il ressort du plateau, c'est un monstre dégoulinant qui est obligé de se doucher tout de suite, quoi.
D'accord.
Et les douches sont super sales, pleines de plumes et de
voilà. Voilà. Mais encore chez nous, ça va, mais quand on est en tournée, on prévient le théâtre en leur disant attention, on n'est pas des gros dégueulasses, mais il y a des contraintes techniques dans le spectacle.
C'était Gérard Espinoza qu'on écoutait juste à l'instant, un homme assez attachant qui nous a fait la visite guidée et très argumentée des coulisses de ce lieu qu'il connaît parfaitement.
Tout à fait. Et on a vu tout le lieu, vous verrez. On est même parti dans des endroits incroyables. L'atelier des décors. Il n'y a pas de backroom. Hein. On n'a pas trouvé de backroom.
On n'a pas trouvé de backroom.
Pas de fantôme. Pas de...
Non. Mardi Backstage, le donc, cadavre, ça sera le 20 octobre sur Divergence. Et ça sera sur les 13 vents, Centre Dramatique National. Et on va retrouver maintenant une chronique qu'on retrouvera chaque mois dans ce Mardi Blabla. C'est Hélène, qu'on connaissait pour ses recettes de cuisine. Tati Hélène, qui là sera embarquée comme ça, téléphone à l'oreille, dans une tentative de faire une interview, ou pas, parce que ça peut échouer. C'est le cas de ce soir, mais on retrouve Hélène qui va nous présenter justement cette chronique qui reviendra régulièrement. Salut, Tati.
Salut.
Salut Hélène.
Vous allez bien?
Oui, ça va très bien.
Je vous entends super mal.
Nous aussi.
Ouais. Donc tu vois, l'un dans l'autre, on s'entend tous mal. C'est très bien. Donc Hélène, parle-nous de ce qu'on va pouvoir écouter régulièrement.
Pardon ?
Parle-nous justement de la chronique que tu vas pouvoir faire comme ça tous les mois.
La chronique que je vais faire, ça va être super sympa. On va essayer de trouver des gens interviewés, notamment qui vont peut-être sûrement faire des concerts, en fait, aller voir des artistes, à la rencontre des artistes, ce qu'on devait faire ce soir. Et surtout, leur proposer une interview qui va peut-être un peu changer de l'ordinaire et éviter peut-être de se prendre la tête sur la conception d'album, pourquoi ils ont voulu mettre ce sens-là dans telle chanson, et peut-être penser juste à se divertir 10 minutes avec des questions peut-être d'actualité, aussi bien sur leur plat préféré que je sais pas ce qu'ils ont envie de faire quand ils auront fini la tournée, quoi.
Il y aura donc un peu de Tati Hélène dans ces interviews.
Oui, c'est possible qu'aussi je ramène des petites spécialités à leur faire goûter. Ça, c'est une idée qu'on a évoquée, ça peut être sympa.
Donc aujourd'hui... Finalement, tu voulais aller voir les Archives, le groupe qui passe ce soir au Rockstore. Mais voilà, justement, c'est toujours cette fameuse magie du direct, comme dirait Léon Zitrone, qui fait qu'on te retrouve ici, peut-être même dans ton intérieur le plus intime.
Ils n'ont pas voulu les Archives, Hélène, dis-nous.
Non, ils n'ont pas voulu.
Il faut dire que le concert est complet, pour ceux d'ailleurs qui n'étaient pas au courant et qui auraient envie d'y aller, voilà. Ça n'est pas la peine d'y aller.
C'est pour ça qu'on ne l'a pas annoncé, c'est à bloc.
Ouais. Et donc du coup ?
Et donc du coup, justement, on ne peut pas faire une émission sans Tati Hélène. Et Tati Hélène, comme c'est la présentation, l'émission d'ouverture, nous présente sa chronique. Est-ce que tu as une petite idée du mois prochain ? Non, j'imagine non, parce que c'est quand même déjà trop tôt. Là. C'est un peu trop tôt pour...
C'est peut-être un peu tôt, mais... J'ai une petite piste éventuellement, j'ai quelques idées.
Est-ce que ça serait pas, voilà, pas. Deux garçons que nous avions reçus ici, ouais, un Sporto et un Cantès. Ouais.
deux garçons dans le vent.
Donc, je sais qu'ils peuvent être très prolifiques au niveau des réponses et ça peut être plutôt sympathique.
Exactement. Surtout si tu leur offres des bons petits plats à manger, je pense que c'est plutôt l'argent, ouais.
Alors c'est ta mission si tu veux bien accepter.
Et Hélène, on se retrouvera aussi, et ça c'est quelque chose qu'on annoncera plus en profondeur dans, sur Divergence, c'est tout le volet qu'on fera avec Montpellier à 100%, où Divergence est partenaire et se retrouvera pour des apéros radiophoniques tous les jours. Et là, on imagine que tu seras dans l'affaire parce que tu es aussi une des personnes qui gère ce merveilleux festival.
Oui, pas toute seule, mais oui. Et je vais refaire mes commentaires, oui, c'est certain. Mais ça, c'est vraiment une super initiative que prend Divergence et Femmes, d'ailleurs.
Merci.
On a hâte d'y être.
Mais oui. Merci, Hélène. On se retrouve le mois prochain avec toi. On espère avec les Sporto Cantès pour une chronique tout à fait déjantée. Et on va peut-être renouveler l'exercice de style qui consiste à interviewer des artistes. Là, on leur foutra les grisettes de Montpellier dans la bouche. Et quand ils seront à moitié étouffés, on leur dira « Et alors, c'est quoi ton album préféré ?» Salut,
à bientôt, Hélène.
Ciao Hélène, merci.
Pavlova, 3 minutes 23, ça vous dit quoi les gars?
C'est la durée du micro qu'on va écouter là maintenant.
C'est quasiment la durée de l'interview qu'on va écouter.
Ça serait pas la dernière pièce de cette nana qui est au, aux Ursulines, au Centre chorégraphique national.
Mathilde Meunier. Sœur Mathilde
Meunier. C'est sœur Mathilde Meunier, oui.
Exactement, Pavlova 323, pièce qui sera présentée du 12 au 16 octobre au Centre chorégraphique national. C'est la nouvelle création de la patronne du Centre chorégraphique de Montpellier. Cette pièce parcourra après la France et l'étranger. Mais pour l'heure, on écoute une petite interview avec une musique de fond qui est d'un fameux Rodolphe Burger et qui lui a composé une musique originale pour cette création. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Eric M, il y a aussi Heiner Goebbels. Et un Rodolphe Burger qu'on retrouvera peut-être un jour dans un backroom, on l'espère. En tout cas, ça sera sur Divergence si ça doit se faire.
C'est bien possible parce que c'est l'artiste invité de la saison de la scène nationale de 7 avec lequel on a quelques amitiés.
Donc, exactement.
On devra aller le chercher.
Nous écoutons l'interview.
Once upon a time, these friends loved each other very much. And they made a wall to stay together. Until they all attained enlightenment, and lifetime after lifetime, an endless rebirth.
Mathilde Meunier, qui est Pavlova exactement?
Alors Pavlova, c'est une danseuse, Anna Pavlova, une grande danseuse russe, je pense que son nom est quand même très connu. Qui a donc interprété cette fameuse mort du cygne. Sous la musique de Camille Saint-Saëns, et c'est une chorégraphie créée par Fokine. Voilà.
Pourquoi 3 minutes 23 ?
3 minutes 23 parce que c'est le format exact, en fait, de la musique. Sachant que toute sa vie, donc, Anna Pavlova l'a dansé quasiment, presque jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus danser. Elle l'a dansé vraiment très tard. Et que c'est un format complètement inouï dans l'histoire de la danse parce que, on connaît très peu de ballets qui font 3 minutes 23. Et donc, en 3 minutes 23, elle va entreprendre une sorte de danse de la mort qui va l'amener à une fin, en tout cas.
Alors après l'unisson que vous avez exploré dans Tempo 76, aujourd'hui vous explorez une forme du ballet. D'où est né cet intérêt justement de revisiter des formes plus anciennes?
En fait, ce qui m'intéressait dans cette histoire du ballet, c'est que c'est un moment de rupture aussi dans l'histoire du ballet. C'est-à-dire que ce ballet, puisqu'il est quasiment improvisé, et en plus, c'est un ballet assez abstrait, sur un format donc très court. Et donc, je pense qu'il représente une rupture dans l'histoire du ballet classique, presque une amorce de ce que sera la danse contemporaine plus tard. Donc, c'est pour ça aussi que ça m'intéressait. Et aussi parce que je pense que ça fonctionne un peu comme un mythe et comme une vanité dans l'histoire de la danse, puisque c'est aussi là-dessus que je travaille dans cette pièce.
Comment d'un solo de 3 minutes 23, on arrive à faire une pièce de groupe de 60 minutes?
Bah justement, la pièce est pensée à partir de ce format-là. Ça veut dire que c'est une pièce qui a un format qui va présenter plusieurs fins, en fait, qui a plusieurs interruptions dans le spectacle à différents moments. Donc, je me sers de cette idée à chaque fois de rupture, de fin de spectacle, mais qui est un peu une manière de structurer l'ensemble du ballet.
Est-ce que cette idée de fin, justement, au-delà d'un souci esthétique, reflète quelque chose qui est de l'ordre de votre pensée, du spectacle, de la danse, d'un monde qui bouge?
Je crois que l'idée de fin, elle est, c'est une idée intemporelle. C'est-à-dire que c'est une idée que je trouve toujours intéressante à intérioriser comme principe de pensée, parce que... parce que toute chose a une fin et qu'on ne peut pas faire comme si les choses n'avaient pas de fin dans sa manière de voir le monde, tout en sachant qu'après une fin, il y a toujours un renouveau. Donc c'est en fait dans cette double action de la pensée que je me situe. Le worst is at this moment happening now. The worst is at this moment happening now. Goes on, the worst is at this moment happening now. Life goes on, life goes on.
Cette voix rocailleuse qu'on a envie tous, c'est celle de Rodolphe Burger. Et cette voix plus féminine qu'on entendait avant, c'était Mathilde Monnier, justement. Donc, présentation de Pavlova, 3 minutes 23, sa nouvelle création. C'est aux Ursulines, au Centre chorégraphique national de Montpellier, du 12 au 16 octobre.
Il se rapproche de plus en plus d'Iggy Pop dans sa voix. Iggy Pop, un peu crooner.
Son Iggy Pop crooner sur Houellebecq.
Tout son album de cover se rapproche beaucoup de ça.
Ouais, aussi. On reparle musique, c'est ça ?
On reparle musique, exactement. Burger faisait la transition et c'est Ludovic from Let's Motive.
Voilà, on va écouter un des disques sélectionnés en un cycle chronique. Avant, on en faisait 40, on en fait plus que 6. C'est un choix assez difficile. On a choisi le Wax Taylor, producteur, DJ, scratcher, arrangeur d'un hip-hop abstract. Dit abstract, mais maintenant, ça ne veut plus trop rien dire. Un hip-hop assez large, plutôt atmosphérique, mais chanté aussi, des fois qui flirte avec la soul, même la chanson, parfois avec Charlotte Savary, souvent, même si elle chante en anglais. Et voilà, nouvel album In the Mood for Life, qui est sorti la semaine dernière, le 21 septembre, qui jouera, bon, là c'est un peu plus loin, hein, c'est pas au mois d'octobre, mais il jouera à la salle Victoire 2 le 18 novembre. On a un petit peu le temps, ceci dit, vu la qualité de ce disque et l'aura de ce producteur de plus en plus croissante, et peut-être il faut s'y prendre un peu tôt, je pense, pour aller voir Wax Taylor. On écoute un extrait donc de cet album qui est sorti la semaine dernière, c'est Eye on You, avec un featuring de Charlie Winston, connu pour avoir cartonné toute l'été avec un titre qui s'appelle Like a Hobo. Voilà. Ok.
Ok, Wax Manu. Taylor.
Price of a job you hate. Too bad, it's too late to forget where you're at. You have to admit, I own you. Yeah, that's true. I'm your TV. You pay good cash just to see me. Suck up your time with the lives of others. Mash up your brain to a frozen dinner. From lap to lips, subliminal clips. Engrave the words on your soul. I own you. Everyone knows you're keeping up appearances, for you don't dare to let it show. I own you. Ho 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 ho, I'm your phone. You push all my buttons, we're never alone. It kills you to leave me at home. Think of the dribble you'd miss
hiss of my tones that moan, 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 moan you. Yes, I own you. Yeah. Now you know that's true. Now I own you. And you know that's true. Second reality online, I realize I'm helping escape a life benign. Horn and pointless emails to faceless strangers, now that's a sign. I own you.
Wax Taylor, I Own You, un des choix de la rédaction de Leitmotiv ce numéro d'octobre. Wax Taylor qui sera en concert donc en novembre le 18 à Salle-Victoire 2.
Et là on rentre justement dans la partie où les choix de Leitmotiv sont prépondérants sur ce qu'on va écouter dès maintenant. J'emploie des mots comme ça, 4 syllabes, 5 syllabes avec des adverbes qui finissent en T. Et notamment Timon d'Athènes, Shakespeare and Slam. Et ça Ludo, c'est un peu ton coup de cœur, mais aussi le coup de cœur de la rédaction de Leitmotiv. C'est mis en scène par Razerka Ben Sadia et Denis Lavant, un acteur et metteur en scène qu'on connaît bien.
C'est acteur, metteur en scène, Denis Lavant, metteur en scène.
Ben là, il co-met en scène.
Ah voilà, parce qu'il faut dire qu'ils sont mariés.
Et femmes.
Dans le privé.
Compagnie Objet Direct, c'est les 15 et 16 octobre, en première mondiale, non première française, mais peut-être même mondiale, je pense.
Mondiale, il faut voir, parce qu'en plus, il y a un artiste américain dedans. Ouais. Bon, après, bon, Timon d'Athènes, voilà.
Et c'est au Théâtre de Nîmes.
Théâtre de Nîmes à l'Odéon, c'est pas dans le Grand Théâtre. D'ailleurs, c'est peut-être, je sais pas si c'est un bon choix. Après, il faudra voir si les gens vont venir. En fait, l'idée, c'est de reprendre voilà, le texte et l'adaptation de Timon d'Athènes, du grec et du Shakespeare, version slam, spoken word, c'est-à-dire qu'il va y avoir sur scène Kazé, qui fait partie du collectif La Rumeur, une rappeuse francilienne très engagée, qu'on a vu à Montpellier,
ça,
excellente. D de Cabal, qui faisait partie de la tribu d'assassins à la fin des années 90, qui fait partie du projet Spoke Orchestra et de pas mal de projets qui allient musique, slam, militantisme aussi, surtout. C'est toujours très central dans ses textes et dans ses slams. Il y aura Mike Ladd, excellent rappeur américain, qui vit à Paris maintenant, donc qui explique un peu cette connexion entre artistes, rappeurs, slammeurs français et américains. Voilà. Je me perds un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de monde dans cette pièce. Il y aura aussi des actrices, il y a Marie Payen. Donc voilà, c'est assez prometteur. Donc Denis Lavant dans le rôle de Timon, qui déclamera tout ça. Et puis tous ces slameurs, il y aura une grande part d'improvisation, forcément, comme souvent dans le slam. Et voilà,
ce qui est étonnant, c'est qu'a priori, quand même, bon, là je vois qu'il y a des grands noms et des noms très intéressants, notamment Mike Ladd, mais ce type de projet un peu pot-pourri peuvent faire un petit peu peur, a priori. Et on se dit, bon, évidemment, on compte sur le talent d'une Razerka Ben Sadia et Denis Lavant pour faire monter la sauce, mais ça, à l'origine, ça sent un peu mauvais quand même de se dire on prend du Shakespeare avec du slam, on y fout
du
hip-hop.
Ouais, on a vu tant de projets complètement ratés, foireux, voire à côté, enfin même en même temps. Il faut voir, moi je fais plutôt confiance à Denis Lavant, qui est quand même, pour les gens qui ne connaissent pas bien, parce qu'il fait quasiment plus de cinéma, on a dû le voir dans quelques films de Claire Denis ces dernières années.
Et on l'a
il
vu
a été
aussi
très connu
dans
sur les films de Carax.
Ouais, ben on l'a vu dans le dernier 80. Carax, dans la trilogie, la Tokyo.
Merde. Ouais,
et
ouais.
Où il a fait merde. Mmh. Et justement, où il revient à la conquête d'un langage, je crois le merdoum ou un truc comme ça, et où il invente une langue. Et j'imagine qu'en allant vers le slam pour reparler de Shakespeare, c'est aussi un moyen de conquérir de nouveaux langages.
Il y a ça aussi, pour l'avoir vu plusieurs fois, Denis Lavant, c'est quelqu'un qui tord les textes, qui peut le prendre vraiment des textes qui peuvent être difficiles ou classiques. Qui peut en faire quelque chose d'assez complètement captivant, de par sa voix et sa diction, mais aussi son physique est de plus en plus étonnant en vieillissant. Physique toujours très petit, très nerveux, avec cette gueule burinée, de plus en plus burinée, et puis cette voix, et voilà. Enfin, c'est à voir, on ira voir, on en parlera après aussi.
Ça peut marcher, ça. C'est ça le propre du spectacle. Hein. On gagne
Denis Lavant aussi, cas... c'est un petit clin d'œil à mon ami Damien McDonald qui a fait les beaux jours de nos émissions de l'an passé avec ses lectures chaudes et un documentaire qu'il a tourné sur Marcel Moreau, un écrivain, enfin un artiste assez puissant. Et c'est Denis Lavant qui, justement, fait le bonheur de parler, de faire cette voix off. Et tu me fais des signes comme ça, mais alors prends la parole.
Mais on va rappeler juste, donc voilà, 15 et 16 octobre à Nîmes. On s'éloigne un peu de Montpellier, mais pas tant.
Alors moi, j'ai un autre théâtre hybride. C'est la prochaine création de Julien Bouffier au 13 vents, Hiroshima, mon amour, qui est un truc qui lui tient à cœur hein, depuis pas mal de temps. Et puis c'est quelqu'un qui bride et dont l'hybridation commence à être un peu aboutie. Ça sera du 13 au 24 octobre et il commence dès aujourd'hui toute une série autour de Hiroshima. Il y a une exposition à la Galerie Saint-Ravi qui s'appelle Vêtements d'Hiroshima à partir de clichés qu'ils ont pris lorsqu'ils sont allés au musée d'Hiroshima. Et puis il y a des performances avec Dimonet, parce que c'est Dimonet qui fait la musique et qui fait plus que la musique d'ailleurs dans cette pièce visiblement. Donc il y a une performance de Dimonet et de Bouffier demain à 12h à la Fac des Sciences. Jeudi 1er avril à 18h au Diagonale.
Avril.
Et jeudi 1er
Merci octobre. Manu. Ouais,
jeudi 1er octobre à 18h au Diagonale. Et le mercredi 14 en avant-goût à 17h au Forum de la FNAC.
Julien Bouffier qu'on retrouve justement dans la semaine prochaine dans Mardi Backroom. C'est un des invités qui jalonne le parcours de Dimonet dans cette folle nuit. Un dernier pour la route, les amis.
Ah, y a l'exposition de Seth à table.
À table.
Est-ce qu'on a
qui dure jusqu'à fin novembre.
Ça dure jusqu'à fin novembre.
Il y a du rab sur cette très belle exposition qui en plus bouge tout au long de...
Ça, on a une petite présentation par Hervé Desrosa, on a un petit bout, Manu,
s'il vous plaît.
On a un petit bout d'interview d'Hervé Desrosa.
Absolument.
Vous l'avez et je vous le sers tout de suite sur un plateau.
Serre-le-nous.
Ça fait plusieurs années que j'ai ce projet d'exposition avec Antonio Miralda, qui est un artiste espagnol né à la fin des années 40. Et qui consacre depuis les années 60 et surtout depuis la fin des années 80 tout son travail à la nourriture, à la culture de la nourriture. Et nous avons, et on est les seuls en France à présenter ce projet qui a été présenté dans toutes les. À la Biennale de Sao Paulo, à la Biennale de La Havane, à Miami, dans beaucoup d'endroits. Et justement, l'exposition met le point là-dessus. La nourriture, c'est aussi politique. C'est aussi artistique, c'est aussi esthétique, c'est aussi poétique. C'est tout ça la nourriture. C'est des rapports aussi, dans l'exposition on peut le voir, politique aussi. Qui mange quoi, comment, quel peuple mange quoi, quel genre de groupement social, etc. Entre différents groupes sociaux, etc. Donc c'est, et lui, depuis 15 ans, il collecte objets, informations, images, vidéos, etc. sur ce thème. Et donc... une exposition, on n'a pas l'habitude au Miam de faire des expositions solo, mais là, lui, c'est plutôt une collection de choses qu'il présente. Et nous, on est aussi sur ce terrain des collections. C'est pour ça que... Bon, on va manger ça, quand même.
Mardi, Miam, Miam.
Mardi. Et c'était donc un extrait justement de Mardi Miam Miam et quelle belle occasion pour parler, pour évoquer une exposition qui s'appelle À Table. C'est du 20 juin au 22 novembre et c'est au musée de l'art moderne de Sète. Ça ne pas rater, c'est en lien avec les beaux-arts de Sète. Et tous les dimanches, à partir depuis deux semaines, il y a un cycle d'événements comme ça autour de la bouffe qui se fait au Miam. Merci à tous, merci François, merci Ludo, merci chers auditeurs. Vous l'aurez compris, la semaine prochaine c'est Mardi Backroom, on se retrouve ensuite avec Mardi Miam Miam avec ce monsieur Desrosa et on finira au 13 vents avec Mardi Backstage. Pour se quitter, un petit morceau du dernier album de Phoenix. Phoenix passe le 13 octobre au Rockstore.
Les cacationnistes adorent.
Et les cacationnistes sont juste derrière nous, déjà en train de nous envoyer des cacahuètes.
Comme c'est leur première, ils sont à l'heure.
Merci à tous. À bientôt.
À bientôt.
Ciao.
So sentimental.
watching it grow. Like a ride, oh. Not easily offended, not how to let it go. From a mess to the masses. See it grow like a ride, oh. Not easily offended.